c'est Explose le cadre, le podcast qui booste votre niveau de confiance pour vous aider à prendre votre place. Chaque mois, je questionne des femmes inspirantes que je nomme affectueusement les parfaites. Ces femmes qui ont su dépasser leurs peurs, s'affranchir du regard des autres et gravir des montagnes pour réaliser leurs rêves. Elles partagent avec nous leur vécu, les expériences marquantes de leur vie et leurs meilleurs conseils. Explose le cadre, c'est plus qu'un podcast. C'est un show enrichissant et divertissant qui vous aide à passer concrètement à l'action pour devenir une femme plus confiante, forte et audacieuse. L'objectif ici est de revisiter nos croyances limitantes pour littéralement exploser notre cadre. Ici, pas de chichi, nous sommes là pour bâtir notre avenir et concrétiser nos rêves. Alors, c'est parti! Moi, c'est Christelle. J'ai créé ce podcast avec pour ambition de vous faire sortir de votre coquille et de vous aider à vous reconnaître et à considérer vos valeurs. J'ai, depuis ma plus tendre enfance, manqué cruellement de confiance en moi et d'estime de moi. Mon jeu préféré était celui de la souris. Vous savez, la fille qui rêve d'être invisible aux yeux des autres. Mais pas facile quand on a un profil atypique. Je me dévalorisais sans cesse et me jugeais durement, que ce soit physiquement comme intellectuellement. Mon dicton préféré était « je suis trop nulle ». Mais j'ai depuis eu la chance de découvrir à l'âge de 11 ans le développement personnel au travers de la sophrologie. Et je dois dire que ça a transformé ma vie. Après des années et des années de travail sur moi, je suis de plus en plus sensible à la souffrance des femmes qui m'entourent et qui vivent encore ce sentiment dévastateur. Aujourd'hui, je souhaite synthétiser tous ces apprentissages au même endroit et sous une forme ludique, mais surtout sans prise de tête. Voyez cette capsule comme un bon moment entre amis, un bon verre à la main et une ambiance musicale funky. Alors maintenant que le cadre est posé, je vous propose de commencer. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode pour interviewer Nadia Lacaille, coach en business sensoriel, accompagnatrice en business sensoriel. Dans cet épisode, vous allez découvrir qu'est-ce que le business sensoriel, comment elle est passée d'hôtesse de l'air à coach, et vous allez découvrir une pratique ludique que l'on m'interdisait de faire quand j'étais petite et qui permet de gagner en confiance et en sérénité, que l'on peut pratiquer tous les jours très facilement. Vous allez également découvrir dans cet épisode comment commencer ses journées pour être vraiment alignée et confiante dans tout le déroulé, dans toutes les activités qui vont nous accompagner au cours de cette journée. Et enfin, comment pratiquer la visualisation pour créer ses rêves. Et bien d'autres encore pépites que Nadia nous partage. Alors j'espère que vous allez apprécier cet épisode. Comme toujours, après l'interview, vous allez retrouver la rubrique de Sylvain, coach de vie, qui va vous donner son aperçu, ses conseils qu'il a extraits de l'écoute de l'interview. Et je finirai par la rubrique plan d'action pour vous donner en 3 points un plan clair et simple à mettre en application dès aujourd'hui. Allez, à tout de suite. Bonjour Nadia, bienvenue dans le podcast Explose le cadre.
Bonjour Christelle et merci pour l'invitation.
Eh bien, c'est un grand plaisir de t'accueillir aujourd'hui et je commence toutes mes interviews de la même façon, qui est une prise de température ou devrais-je dire une prise de confiance. Sur une échelle de 1 à 10, à quel niveau estimes-tu ton niveau de confiance en toi aujourd'hui dans la vie de tous les jours?
8 sans hésiter.
Cool. Alors, pour continuer cette mise en bouche, je vais te proposer un portrait chinois pour qu'on apprenne encore plus à faire connaissance. Si tu étais un dessin animé.
Juliette, je t'aime.
Si tu étais... Si tu étais une mauvaise habitude.
Alors là, on voit qu'on est dans la spontanéité, rien n'a été préparé. Hein. Une mauvaise habitude, de tarder à quitter un lieu.
Si tu étais un sport.
Le basket, pour jouer en collectif.
Si tu étais un livre.
L'élément de Ken Robinson, qui parle de la singularité de chacun.
Si tu étais une pièce de la maison.
Le salon.
Si tu étais un élément.
Alors, je dirais l'eau, parce que j'ai une grosse tendance à être bien fluide et agile. Et je sens que le feu est très, très, très présent en moi depuis que j'ai commencé à entreprendre. Et c'est celui-là qui m'active et qui me donne l'élan tous les jours.
Si tu étais une cause.
La paix dans le monde.
Et si tu étais un animal.
Un chat.
Super, merci pour ce portrait chinois. Nous allons envoyer avec la première question qui est tout simplement, quelle humaine es-tu ?
Ah, merci pour cette question. Déjà, elle est douce à mes oreilles et j'aime beaucoup entendre ça. Je suis une voyageuse. J'ai parcouru le monde, hein, j'ai envie de dire, pendant... plus de 16 ans, j'ai été hôtesse de l'air, donc j'avais une vie incroyable, une qualité de vie assez exceptionnelle parce que j'avais pas de charge mentale, j'avais énormément de temps pour moi et je ne savais pas ce que c'était les boîtes mail à l'époque. Et donc... l'humaine en moi, elle était très, très, très enjouée et nourrie par tout ce temps qu'elle avait. Et donc, le voyage et notamment ce métier-là m'a permis vraiment d'aller parcourir le monde, sentir, découvrir, mais c'est qui ces gens-là sur cette planète ? Et en fait, de par ma sensibilité... comme tu disais en intro, le sensible, j'ai été formée à la sophrologie il y a 6 ans à peu près. Et effectivement, plus je vais à l'intérieur, plus je développe ma sensibilité et plus je ressens les gens qui sont autour de moi, les lieux et là où je dois aller. Et je pense être une humaine sensible. Ne pas confondre avec une certaine vulnérabilité. Au contraire, pour moi, la sensibilité, c'est la force qui te permet justement de faire les bons choix.
Super. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qui t'anime aujourd'hui dans ton quotidien ?
Ah, ce qui m'anime aujourd'hui, c'est la joie. En fait, cause et conséquence, j'ai envie de dire. La joie, j'aime être en joie au quotidien et j'aime créer de la joie. Et ce qui m'a, et un des outils en fait, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, il y a à peu près 3 ans, j'ai découvert ma voix déjà. Et donc, j'ai découvert que je pouvais encore me développer à travers ma voix. Ça fait 15 ans que je suis dans le développement personnel, que je pratique diverses... thérapie, approche alternative. Et là, dans mon parcours, j'arrive sur ma voie Et la voix devient autant un outil dans mes accompagnements professionnels que quelque chose qui me permet d'aller à ma rencontre et d'être en joie profondément. Et ça, ça se passe à travers le jeu également. Concrètement, tu vois, je monte sur scène là, dimanche. Donc ça m'anime de chanter ensemble avec une chorale de femmes et une partenaire que je peux nommer.
Oui.
Sowa, qui nous accompagne dans cette aventure. Et donc vraiment le chant, notamment là, à ce moment-là, c'est d'inspiration chamanique, qui nous permet de chanter ensemble. Ça me donne des frissons et les gens en pleurent d'ailleurs. Et après, moi-même de mon côté, ça va être d'animer des circle songs. C'est de l'improvisation vocale collective où on est tous ensemble, et on joue avec nos voix et simplement on fait de la musique ensemble. Et c'est ça en fait qui me fait kiffer au quotidien. Et après, de manière très simple, j'ai envie de dire, emmener mon fils à l'école en vélo. Ça m'anime. Pouvoir m'autoriser à, dans mon quotidien d'entrepreneur d'avance maintenant, à aller marcher dans le lagon et me laisser surprendre par des poissons fabulés, me dire waouh, je suis entourée de la vie. Qu'est-ce qui m'anime? C'est maintenant que je ne suis plus hôtesse de l'air, j'ai quitté il y a 4 ans. C'est d'aller en voyage à l'intérieur de moi-même et de découvrir encore des espaces en moi habités, vivants, animés. Et ça me met profondément en joie, en fait, de me sentir vivante, parce que c'est ça le sens de ma vie et de la vie. C'est vraiment de la goûter, en fait. Et donc, je suis en joie de la vivre au quotidien.
Super. Et comment tu utilises le chant au quotidien pour accompagner tes coachés?
Comment j'utilise le chant? J'accompagne les entrepreneurs, que ce soit des thérapeutes, coachs, accompagnants ou des chefs d'entreprise maintenant. On est dans mon bureau, par exemple, et que ça peut se faire en duo. Je les aide à improviser par du jeu, à libérer la voix. Alors, je suis aussi formée à la technique vocale, donc déjà, j'apprends à mes clients à aller à la rencontre de leur voix et de la découvrir et de se découvrir à travers elle. Et puis, ça se fait à travers des jeux et surtout par le lâcher prise. Et j'aime beaucoup citer mon enseignante, ma formatrice là en circle son qui nous demande de lâcher l'exigence d'excellence. Et c'est exactement ça, c'est en lâchant l'exigence d'excellence qu'on arrive à sortir des choses et de se faire confiance au fur et à mesure, parce qu'on ose, parce que on arrête d'être dans des pressions et dans des performances. Et donc ça peut se faire dans l'intimité à deux à mon bureau, dans un accompagnement justement pour développer sa confiance ou développer son business. Et ça peut se faire aussi en groupe, notamment d'entrepreneurs, où j'y amène beaucoup la notion de singularité. J'aime beaucoup utiliser le circle song pour que chacun puisse trouver le moyen de prendre sa place, comment le cercle peut aider l'individu à prendre sa place et comment on peut co-créer ensemble, donc au même niveau, et dans la musique. En fait, je trouve ça extraordinaire parce que le circle song amène vraiment une accessibilité à la musique. Alors moi, je m'appelle Lacaille, et à La Réunion, il y a une grande famille de musiciens, René Lacaille notamment, et ses enfants, il joue aussi avec sa famille. Et donc, on est famille éloignée, on a le même nom, mais voilà, je ne suis pas née dans ce cercle-là. Et en fait, la musique m'a rattrapée. De manière assez étonnante d'ailleurs, je n'étais pas vouée à faire de la musique, et quand je chantais à l'époque, on n'aurait jamais dit qu'un jour je monterais sur scène. Et en fait, c'est ça que j'aime beaucoup avec les Circle Song, c'est que les gens me disent mais non, mais moi je sais pas chanter, ou c'est assez confrontant. Je me dis ben, je leur dis moi non plus, je ne sais pas chanter. Enfin, bon, aujourd'hui, je sais un peu plus chanter, mais je leur dis on va faire des sons en fait. On va faire des sons ensemble, on va s'amuser, on va jouer, et puis on va co-créer. Et c'est ça qui est magique. Il n'y a pas de performance. C'est vraiment, on passe un moment ensemble et petit à petit, de manière très subtile, la confiance s'installe. On ose, et parce qu'on ose, et parce qu'on a le soutien du groupe, et j'ai envie de dire qu'on est tous dans le même bateau, ça amène à un cadre sécurisant, et donc on se pose là, avec nous-mêmes, avec les autres, avec le chant, et ben, y a besoin de présence, il y a besoin d'écoute, et c'est là que l'harmonie se crée en soi et avec les autres.
Waouh, c'est un super programme. Et tu disais que tu pouvais utiliser cette technique pour aider les entrepreneurs à développer leur business. Comment on fait ça?
Alors, c'est quoi le lien entre le business et voix? Quand on développe un business, quand on entreprend, on pense souvent au business plan. Donc, on a le prévisionnel, on a les chiffres, c'est tout bien structuré, tout bien cadré, sauf que, à un moment donné, il va falloir le réaliser. Donc, moi, j'aime beaucoup parler de business model écologique. Je suis partie du constat que le business model a un impact sur ta vie. Donc, il est nécessaire de créer un business model qui soit aligné à tes aspirations profondes, déjà, tes valeurs, pour pouvoir les nourrir, les respecter au quotidien. Et ta personnalité. Si dans ta manière de prospecter ou de vendre, tu vas beaucoup entendre sur Internet « Ah oui, il faut faire des vidéos YouTube, par exemple, ou il faut faire des vidéos Insta, il faut faire des Reels. » Oui, mais si tu n'es pas à l'aise à faire des vidéos, il y a d'autres moyens. Si ce n'est pas dans ta personnalité, il y a d'autres moyens pour prospecter. Donc l'idée, c'est ça. C'est d'apprendre à se connaître pour créer un business model qui soit écologique pour soi, dans tous les éléments du business model, pour pouvoir ensuite être dans un entrepreneuriat qui est doux et joyeux. Et une fois qu'on a créé ce business model écologique, épanouissant, eh ben, il va falloir aller se montrer au monde, se rendre visible. Et c'est là où la voix intervient. Et donc, il y a tout un travail de connaissance de la voix, de connaissance de ses capacités. Alors moi, j'aime beaucoup, à travers les pratiques sophrologiques qui sont des visualisations ou des pratiques méditatives. Alors, tu connais, mais pour ceux qui nous écoutent, la sophrologie n'est pas de la relaxation. En tout cas, moi, j'ai créé au fur et à mesure de mes années, ça fait 6 ans là, que j'accompagne les entrepreneurs, et donc j'ai adapté les pratiques sophrologiques à l'entrepreneuriat et à l'entrepreneur qui est notamment engagé et passionné. Tu sais, celui qui a du mal à s'arrêter, celui qui n'arrive pas à dire non, celui qui est sur 18 projets à la fois, parce qu'en fait, ils sont tous aussi intéressants, et ben, comment choisir? Voilà, donc ce type d'entrepreneur, donc j'ai adapté la sophrologie pour ces entrepreneurs-là, justement pour développer la capacité. Développer la conscience de ses capacités et les valoriser. Et à partir du moment où on a conscience de ses capacités et on les valorise, ben derrière, on peut ensuite exprimer sa voix. À partir du moment où on est clair sur qui on est, sur ses valeurs, sur sa vision, sa mission, ensuite on peut l'exprimer de manière beaucoup plus fluide. Et c'est ce que j'ai fait pour une trentaine d'entrepreneurs dans l'association Défis de femmes, une association de femmes entrepreneurs, où d'ailleurs aujourd'hui je suis une des représentantes légales. On a accompagné une trentaine de femmes avec Comela Media et Natacha Tana, une réalisatrice, une auteuse, et elle était derrière la caméra aussi pour filmer. On a accompagné une trentaine de femmes à développer leur activité. Et surtout, en gagnant en confiance, en osant se rendre visible, et le livrable, c'était 2 minutes de vidéo sur comment elle se présente. Et en fait, j'ai passé, je pense, beaucoup plus de temps à les amener à se questionner sur c'est quoi ma singularité, c'est quoi ma force, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre au monde, c'est quoi mon message, c'est quoi ma vision, dans quel monde j'ai envie de vivre, et c'est quoi, qu'est-ce qui me tient vraiment à cœur. J'ai passé beaucoup de temps à amener de la clarté là-dessus pour que derrière le message soit fluide. Et en fait, le travail sur la voix, c'est ça. C'est ça commence à l'intérieur. La voix, c'est juste un passage finalement. Et puis après, quand c'est un peu chahuté, que c'est un petit peu coincé, ben, on peut avoir des techniques. Je suis formée à la PNL, donc on peut avoir des techniques pour débloquer. Parce qu'on sent que ça coince, parce qu'on sent qu'il y a des tensions, il y a des freins et que ben il y a des peurs qui arrivent. Et alors le corps est un outil formidable. Hein, il nous indique que ben là on est dans des limites. Ah là on est en train de passer un palier. Ou au contraire, là ça y est, on est en train de s'expandre. Et donc il y a des techniques qui existent que je propose en séance pour débloquer s'il y a besoin. Parce que moi-même j'ai été phobique de la prise de parole. Je l'ai découvert il y a plus de 2 ans. Et le chant m'a beaucoup aidé. Donc, ce que j'ai expérimenté moi-même dans le chant, l'improvisation vocale, je le retransmets à mes clients. Donc, autant dans la connaissance de la voix et de la physiologie de la voix et des techniques vocales, et autant dans le oser, justement, l'improvisation vocale. Il y a un truc qui se joue là dans les circle songs. Ce sont des chants qu'on fait en cercle où au milieu, il y a un chef d'orchestre. Donc ça peut être moi au début, mais après j'invite les gens à aller au milieu au fur et à mesure des petits jeux. Hein, je l'amène vraiment progressivement. L'idée, c'est que je facilite l'approche. Et il faut oser, en fait. Et ne serait-ce que d'être au milieu et de faire des boucles improvisées et pouvoir les offrir à des personnes pour qu'elles répètent ensuite et qu'ensuite on crée la musique ensemble, ça, c'est hyper challengeant. Et il y a besoin d'être clair parce qu'on ne va pas expliquer quand on transmet une boucle musicale ce qu'on va faire. On est vraiment dans de la musique, dans de l'harmonie, dans des notes, dans des silences et il n'y a pas d'explication forcément. Donc, c'est assez subtil. En fait, c'est vrai que le circle song, c'est pas facile à expliquer. C'est vraiment une expérience à vivre pour goûter justement l'audace, le lâcher-prise, l'entraide, la solidarité, l'inclusion. Et j'aime beaucoup amener les entrepreneurs à activer en fait la notion d'inclusion en fait dans le leadership.
Waouh. Je voulais savoir ce qui t'a fait passer de hôtesse de l'air à ton métier d'aujourd'hui, parce que ça avait l'air d'être le rêve, comme tu le racontais, ta vie d'hôtesse de l'air. Qu'est-ce qui a été le déclic, le déclenchement de ce basculement?
Alors, intuitivement, je me suis toujours dit, à 40 ans, je ne pousse plus un trolley. Parce que j'avais cette image de l'hôtesse de l'air, bon, fraîche, quoi. Voilà, j'avais envie de partir là, digne, j'ai envie de dire. Mais ce n'est pas pour autant que je savais ce que j'allais faire. Et en fait, j'ai décidé d'écouter les gens autour de moi qui me renvoyaient mes forces, ma capacité d'écoute, mon empathie, essentiellement à ce moment-là. Et puis, quand j'ai commencé à me dire, bon, ben là, je vais aller vers autre chose, j'ai commencé à m'ouvrir. Et quand j'ai commencé à m'ouvrir, et ben naturellement, en fait, grâce à ma sensibilité, à mon radar naturel que j'ai pu saisir les opportunités. Déjà, j'avais une appétence pour le développement personnel, donc j'ai eu envie d'aller creuser là-dedans. Et quand j'ai commencé à me former à la PNL, là, j'ai trouvé ma tribu. Parce que là, je te raconte ça, c'était en 2014. Donc, en 2014, quand je disais que le corps manifeste des conflits intérieurs, certains me prenaient pour une uluberlue. Et puis, en fait, ça, je l'ai découvert, c'était marqué dans les livres de PNL. Le corps et l'esprit font partie du même système. Donc là, déjà, je me dis, OK, en fait, quelque part, mon attention à la raison. Et puis moi-même, hein, je suis passée par là, j'ai vu que mon corps manifestait des tensions, des douleurs, des maux, et la médecine classique ne pouvant pas m'aider, donc je suis allée voir autre chose. Donc je l'ai expérimenté, et je sentais bien que quand je sortais du médecin et que j'allais mieux, alors j'avais même pas pris les médicaments, bon, il y avait un truc qui se jouait là-dedans. Et je me forme au métier de sophrologue, et en fait, ça se fait petit à petit. Plus j'arrive, alors moi j'aime beaucoup le changement dans la douceur, hein. Je ne suis pas du tout impulsive, j'aime beaucoup prendre mon temps dans des décisions, et tant que ce n'est pas évident, tant que je n'ai pas eu l'évidence même, je ne prends pas de décision, je décide de ne pas décider. Et en fait, je continue à me former au métier de sophrologue, et puis je commence à m'ouvrir. Alors, pour obtenir le titre de sophrologue reconnu RNCP, on nous demande de faire un business plan. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je me rends compte que je vais entreprendre. Au départ, moi, je suis juste à me former à la sophrologie et accompagner les gens. Je ne vois pas tout ce qui m'attend derrière. Et je me fais accompagner par Laetitia Gomez de Kern Consultant, qui a été un ange dans ma vie. Et donc, elle m'a ouvert les portes. Elle m'a permis de connaître le milieu des startups. Et là, ça a été la révélation pour moi. Et petit à petit, en fait, j'ai pu quitter mon métier d'hôtesse de l'air. Et effectivement, à 40 ans et 3 mois, j'ai quitté la compagnie. Et après, j'ai été guidée, je me suis laissée guider finalement. Et je pense que c'est ça ma force et le secret, c'est de toujours avoir confiance en ma chance. Ma mère, elle m'a souvent dit « t'as de la chance ». Et au début, je le prenais un peu mal parce que ça m'enlevait un peu de mon pouvoir et de mes capacités. Et en fait, aujourd'hui, je crois que la chance, en fait, on la saisit. C'est vraiment une capacité à saisir sa chance. Et en fait, ben, j'ai saisi les opportunités et même si à un moment donné, je me suis dit, bon, il y a eu des petites résistances, hein, des petits conflits à l'intérieur, hein, quand il a fallu vraiment que je saute le pas, j'ai voulu encore essayer de me raccrocher aux branches. Et puis la vie m'a fait, non, t'y vas maintenant. Et voilà, ça a été vraiment un coup de pied au derrière, assez doux quand même. Voilà, c'était pas trop violent. Et je me suis dit, bon, allez, je me lance et j'y vais. Et je suis tellement portée aujourd'hui par mes valeurs, ma mission, que je peux pas m'arrêter, en fait. Et c'est ça vraiment qui m'anime au quotidien pour avancer.
Tu disais juste que tu avais eu des difficultés quand même dans ce passage à l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces difficultés ou ces croyances limitantes qui te tiraillaient un peu ?
Ben, comme tu dis, j'avais une qualité de vie incroyable. En fait, il y a un détail qui a son importance, c'est que j'habite sur une île et le fait d'avoir des billets à, disons-le, 120 euros pour aller sur Paris, ça facilite le voyage. Aujourd'hui, on me donnerait ça, je ne le ferais plus parce que ma valeur écologie, elle est bien plus forte, tu vois. Mais j'avais quand même cette qualité de vie incroyable. Je pouvais aller n'importe où dans le monde. Je prenais plus l'avion que ma voiture. J'avais des avantages. On peut nommer... la mutuelle, quand tu vas à l'aéroport, ben, tu as la carte de l'aéroport. C'est des petites choses, tu sais, mais auxquelles on s'accroche quand on est salarié parce qu'on est dans un espèce de confort. Et en fait, c'est après coup que je me suis rendu compte que, bon, c'est confortable. Et puis, je le savais, en fait. Intellectuellement, je le savais que j'étais dans un certain confort et que ce n'était plus ma place, en fait. Donc, je me suis accrochée par peur de perdre mes avantages, par peur de perdre ma qualité de vie. Et par contre, c'est ce qui a conditionné aujourd'hui ma façon d'entreprendre. Il est hors de question que je m'épuise. qui ne veut pas dire que parfois je me sens débordée ou j'ai une charge mentale. Par contre, comme je me suis entraînée, ça fait 10 ans que je m'entraîne à des pratiques méditatives et à sentir où est-ce qu'elles sont mes limites, et là, sentir que je ne suis plus dans ma pleine présence, là, je ne suis plus aidante pour moi-même et pour les autres, ben, j'arrive à m'arrêter. Et c'est ce qui a conditionné aussi aujourd'hui mon approche du business sensoriel. C'est comment aider les entrepreneurs à entreprendre dans la douceur et dans la joie, à gagner en confiance, à donner de la voix à leur projet et prendre leur place avec cette approche plutôt sensorielle, parce qu'on est beaucoup dans la volonté. Quand on entreprend, on n'a jamais entrepris, on fait un peu comme on peut et puis comme les autres font surtout. Mais si on est dans un environnement où les autres font avec de la volonté et beaucoup de yang et de l'anticipation et beaucoup de structure, d'organisation qui est nécessaire, mais sans un équilibre, avec un côté un peu plus yin, c'est là où je rencontre des personnes qui sont en burn-out et qui lâchent leur projet. Parce qu'elles ont voulu respecter certaines consignes, certaines manières d'entreprendre. Voilà, il faut faire un business plan, il faut des chiffres, il faut des prévisionnels. Il faut aller lever des fonds, donc faut plaire aux investisseurs, mais faut plaire de manière chiffrée. Voilà. Donc, et comment allier finalement du sensoriel, de l'intuitif dans sa prise de décision? C'est ce que je permets en tout cas, c'est ce que j'apprends aux entrepreneurs à faire à travers un entraînement et justement grâce à ces pratiques méditatives de sophrologie.
Ok, donc tout à l'heure tu nous disais que tu utilisais le chant, voire la PNL et la sophrologie pour accompagner tes coachés, mais concrètement quand on vient te voir, comment se passe un accompagnement en tête-à-tête ?
En tête-à-tête, alors une séance, alors moi j'ai la méthode sophro derrière qui me donne une certaine structure, une certaine méthode, donc j'ai des exercices que mes exercices chouchou, j'ai envie de dire. Ça me donne un fil conducteur qui permet d'accompagner une personne qui soit se lance, par exemple, et qui ne se sent pas légitime à entreprendre, soit ça fait un moment qu'elle entreprend et elle se dit que là, elle ne peut pas y arriver toute seule, ou elle est passée par la case burn-out et là, elle a envie de plus de sens dans son entreprise et être beaucoup plus authentique. Donc, je lui propose un accompagnement sur 8 séances. Je te donne une de mes offres, c'est 8 séances parce que c'est un entraînement. Donc, on a un moment d'échange, je ne suis pas une psy, je suis vraiment là pour avoir un moment pour déposer. Ensuite, on fait une pratique, souvent issue de la sophrologie ou de la PNL, selon ce qui vient là sur l'instant. Une pratique qui va permettre de développer des capacités de concentration, de mémoire, de préserver sa créativité, préserver son énergie. Donc, on est vraiment dans du développement de capacités de prendre du recul, changer de perception. Donc, il y a vraiment des exercices pour, j'ai envie de dire, modeler son cerveau et le rendre optimal. Et en même temps, donc on est sur un travail de fond d'entraînement. Et j'aime bien répondre à des problématiques, on va dire, ou en tout cas à des questionnements sur l'instant. Et donc amener des pratiques qui vont répondre à c'est quoi mon client idéal, c'est quoi ma stratégie d'entreprise, est-ce que je fais le bon choix de partenaire, comment créer mon offre. Donc je vais avoir des visualisations qui vont être très adaptées la création de son business model finalement, parce que je crois en l'autonomie. Donc je transmets des pratiques qui vont être répétées ensuite entre 2 séances. Donc je m'assure que ce soit compris, donc il y a un déroulé, donc j'explique ce qu'on va faire, donc c'est pas de l'hypnose, j'explique ce qu'on va faire, tout le déroulé, l'intentionnalité de la pratique pour qu'ensuite à la fin de la séance elle est expérimentée. Il y a un temps d'écriture principalement, ou alors ça peut se faire à l'oral avec moi, parce que j'adore justement aller creuser les réponses. Qu'est-ce qui est apparu en fait pendant la pratique pour pouvoir amener la personne à aller au fond en fait de qui elle est et de ses capacités et d'aller percevoir finement. Donc le cœur de la démarche de la sophro, c'est quand même l'écoute du corps et le développement des perceptions. Donc j'amène à développer ces capacités-là. On a un temps d'échange et puis après, donc je donne des consignes à la fin qui sont autant business sur OK, c'est quoi ta prochaine action pour continuer à développer ton entreprise, et que ce soit très ciblé, très pratico-pratique, parce que justement, grâce à la sophrologie, et en tout cas, j'ai même envie de dire à ma vibration d'aujourd'hui, il y a des choses magiques qui se passent, et il y a des choses qui se passent en séance, mais comme à l'extérieur de la séance, entre deux rendez-vous, il y a des choses qui arrivent en fait. Donc forcément, à force de pratique, on s'ouvre, il y a une ouverture qui permet de voir le champ des possibles, de saisir les opportunités et du coup d'avancer de manière alignée. Et donc c'est un entraînement que je propose entre les séances. Et ça c'est hyper important, ça c'est vraiment ma différence. Je peux avoir une casquette de coach et poser les questions qui permettent de changer de perception, de recadrer et justement pour s'ouvrir à d'autres manières de faire et de voir. J'ai une casquette de thérapeute si à un moment donné la personne arrive à une peur qui revient de qui appartient à Mémé par exemple. On peut aller voir ça hein, et libérer Mémé à ce moment-là. Et j'aime beaucoup avoir cette casquette de pédagogue parce que je transmets une méthode pour favoriser l'autonomie de l'entrepreneur pour qu'il n'ait pas besoin de moi pendant son rituel du matin, à savoir est-ce qu'il réalise tel objectif ou tel objectif. Donc l'idée, c'est d'optimiser. Et la pratique que je propose ne vient pas en plus de ce qu'ils font déjà. J'aime beaucoup le fait que ça soutienne finalement l'activité et l'entrepreneur dans son épanouissement. Est-ce que ça répond à la question ?
Oui, parfaitement.
Et puis après, j'amène des propositions en groupe aussi. Et là, c'est là où je peux amener aussi beaucoup plus d'improvisation vocale. D'ailleurs, je le fais aussi en individuel. Mais c'est vrai que le circle son même se fait en groupe, quoi.
Est-ce que tu aurais une pratique ludique, tu nous parlais de jeu ou encore de visualisation, à partager à nos auditrices pour les aider à être un peu plus alignées et pourquoi pas un peu plus confiantes en elles.
Une pratique ludique pour être plus alignée ou plus confiante. Attention, baguette magique, je regarde ce que j'ai dans mon sac. Ok. Oui, mais alors, ça nécessite une paille, un verre d'eau. Peut-être qu'on peut laisser le temps aux auditrices d'aller récupérer la paille et le verre d'eau. Donc, le verre d'eau, il est rempli à moitié. Et on va mettre une paille à l'intérieur. Et on va faire des bulles. Donc, ça, c'est un exercice que j'aime beaucoup, qui est issu de la technique vocale et qui permet le relâchement abdominal. Parce que bien souvent, j'imagine que... on est en apnée au quotidien parce qu'on a tellement de choses à faire, on est dans l'urgence. Donc, l'idée, c'est de relâcher le ventre et d'amener une certaine détente. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des bulles dans l'eau. Et on va tout simplement, à la fin de l'expire, on ne va pas non plus trop loin, on reste dans le confort. À la fin de l'expire, simplement ouvrir la bouche. Et moi, quand j'ai découvert ça, j'ai découvert la vie, en fait. Je me suis dit, c'est magique. Parce qu'en fait, il n'y a qu'à ouvrir la bouche pour inspirer. Quand on a continué à faire des bulles, et notamment dans la prise de parole ou dans le chant, il n'y a qu'à ouvrir la bouche et le ventre se gonfle. Et puis, on continue à... « Et on ouvre et le ventre se gonfle et on goûte là l'air qui arrive à l'intérieur, qui nous traverse, qui va nourrir nos cellules, qui amène de la détente au niveau du diaphragme notamment. Et le truc quand même à respecter, c'est d'avoir la même intensité du début à la fin quand on fait des bulles, pour avoir le même débit. Et on fait ça pendant quelques secondes. Là. Enfin, l'idée, c'est aussi d'être à l'écoute de son corps, hein, pour justement sentir ben, quand est-ce que ça nous fait du bien et quand est-ce, jusqu'à quand ça nous fait du bien. Hein, là, si ça nous fatigue à un moment donné, voilà, on ne fait pas non plus trop longtemps, on peut le faire en une petite minute et c'est très bien. En tout cas, moi, je l'utilise pour amener de la détente. Parce qu'après, j'aurai plein d'expériences à proposer qui sont un peu plus longues. Mais pour moi, la confiance, elle commence déjà par de la détente. Ce qui permet un recentrage. Parce que là, le fait de faire des bulles, en fait, on se concentre sur quelque chose et on revient à soi. Et puis, on ressent à l'intérieur le ventre qui se gonfle, qui s'abaisse. Et il y a une respiration physiologique qui est en train de se mettre en place. Et ça, déjà, ça améliore la présence. Et la présence, c'est la base de tout. En tout cas, c'est ce avec quoi on commence en sophrologie. Et qui va nous permettre justement d'aller débanaliser nos capacités. C'est un mot qu'on aime bien en sophro. Et du coup, les valoriser. Et pour pouvoir mieux les mobiliser en fait en conscience dans notre quotidien. L'idée, c'est d'être au contact de notre talent, de ressentir. Je faisais ce retour d'expérience dernièrement. Il y a quelques jours, on me demande en pleine journée, alors comment ça va? Et je réponds, mais en fait, j'ai une patate parce qu'en fait, je sors de séance et je me suis sentie particulièrement dans le flow. Et au moment où je suis en séance, je ressens, je vis en même temps que la personne que j'accompagne, ce que je crée de bon, ce que je lui permets. Donc, il n'y a rien à voir avec l'ego et un complexe de supériorité. Il y a vraiment ce truc de me dire, waouh, là, je suis dans le flow, là, je suis mon intuition, là, je suis dans ma présence. Et donc, je suis pertinente. À aucun moment, à la fin, il y a une possibilité, une ouverture à des questionnements. Alors là, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai pas été trop loin? Est-ce que j'ai raté ça? Non, parce qu'en fait, à ce moment-là, il y a de la présence, parce que je suis détendue, parce que je suis très à l'écoute, et donc je la guide de manière fluide en fait, et pertinente. Et là, je me sens complètement optimale, une des valeurs que j'aime chérir au quotidien.
Merci pour ce partage, très enrichissant. Je vais aller souffler plus souvent dans de l'eau pour faire des bulles.
C'est ça, j'ai une cliente qui m'envoie une photo il y a 2 jours. Bon, bubble time, et voilà, la séquence adorée, quoi. Et c'est vrai que c'est un outil que j'utilise de plus en plus, que j'ai découvert en technique vocale et que j'aime beaucoup parce que, en tant que sophrologue, souvent on me dit « Ah, la sophrologie, c'est de la respiration ». Non, pas vraiment. C'est un outil, la respiration. C'est comme le yoga, c'est les postures. Non, pas du tout, en fait. Et c'est vrai que j'utilise pas beaucoup des exercices de respiration dans mes accompagnements. Mais maintenant que j'utilise la voix et l'improvisation vocale, forcément, je passe par cette phase-là. Et j'aime beaucoup la détente que ça permet et l'oxygénation, la vitalité. Et donc, derrière, il y a la confiance qui arrive parce que quand tu es détendue, tu es vivante, tu es présente, rien ne peut t'arriver.
Sur un tout autre registre, on passe à la partie un peu organisation parce que c'est un peu mon dada. Je voulais savoir si tu as une journée type ou des actions types que tu répètes un peu tous les jours ou toutes les semaines.
Une journée type, non. Parce qu'en tant qu'ancienne hôtesse de l'air, pendant 16 ans, je me suis conditionnée à être irrégulière. Et quand j'ai commencé à entreprendre, je me suis dit, je ne vais pas m'imposer une régularité ou une rigueur, en tout cas dans mes journées en termes d'organisation, d'avoir des journées 8h, midi, 14h, 17h, parce que ça, je ne sais pas faire. Foncièrement, je ne sais pas faire. Par contre, je vois dans la rigueur et les rituels du bon. Et d'ailleurs, malgré tout, tu vois, en tant qu'hôtesse de l'air, j'avais des rituels. J'avais toujours la même manière de me préparer avant de partir. Donc, malgré l'incertitude des vols, parfois, malgré voilà, le côté irrégulier, j'avais quand même ce côté rituel. Et ce que je retiens aujourd'hui, c'est le lundi matin, c'est mon money day. Le money day, c'est, en d'autres termes, je fais ma compta. Ok, mais c'est beaucoup plus sexy de dire que je fais du money day. En tout cas, moi, ça me met beaucoup plus en joie. Donc, mon rituel compta est beaucoup plus joyeux, enthousiasmant. Et à la suite de ça, bah, je peux relancer mes prospects, je peux faire mes publications. Et voilà, j'ai ce petit rituel le lundi matin. Après, il y a quelque chose que je fais chaque jour, c'est de pratiquer. Et depuis peu, là, j'ai un nouveau rituel le matin qui est de me lever, je prends une douche et dans la salle de bain, je commence à me nettoyer. Alors, vous allez me dire, mais elle est déjà nettoyée, elle sort de la douche. Ok, physiquement, je me suis nettoyée, mais pas énergétiquement. Et en fait, donc c'est un exercice qu'on a en sophrologie qui développe la capacité à se libérer du négatif, de toutes les tensions. Donc, je me dépoussière, c'est comme si avec mes mains, je me dépoussière de la tête aux pieds pour me nettoyer et m'oxygéner également. Et puis après, je me fais des petits tapotis, je fais des petites percussions corporelles et je termine par la mobilisation de mes articulations de la tête aux pieds. Et ensuite, je fais un mouvement sensoriel, une pratique qui est issue de la pédagogie perceptive. C'est une formation que j'ai commencée en début d'année, mouvement, art et expressivité, qui amène des mouvements sensoriels et qui me connecte à ma pleine présence. Et donc, quand je commence mes journées comme ça, je me sens très alignée.
Super. Tu disais que c'était ta routine du moment. Est-ce que tu changes régulièrement de routine? Ou c'est plutôt la même chose?
Je change régulièrement parce que... Alors, je change la forme parce que finalement, c'est le fond qui est intéressant. Qu'est-ce que je veux dans ma routine matinale? Je veux connecter à ma pleine présence et je veux me relier à mon objectif du mois notamment. Et je veux réaliser mon objectif. Donc, peu importe ce que je fais pour cultiver ma présence, et là, en ce moment, voilà, c'est du nettoyage énergétique et c'est des mouvements sensoriels, mais je peux très bien aussi passer par de l'écriture, une méditation, et je vais marcher dans le lagon, par exemple. Et l'idée, pour moi, l'objectif, c'est je veux cultiver ma présence. Pour commencer la journée... Et donc, percevoir dans la journée, quand je perds ma présence, pour voir y revenir par effet de contraste, je note que je ne suis plus présente, donc j'ai les moyens de revenir à ma présence. Et après, le deuxième objectif de mon rituel matinal, c'est de réaliser mon objectif, notamment de chiffre d'affaires. Et sans me mettre la pression, c'est me relier. Ça peut être en écrivant et ça peut être en mode sophro, une visualisation. Et j'imagine, voilà, je fais mon chiffre. Donc, c'est ce que j'ai fait là ce matin. Il y a des choses qui me sont venues du coup pour ma stratégie. Et bim, c'est comme si je télécharge des informations pour ma stratégie en fait. Et c'est ça qui est génial. Donc, je garde vraiment l'essence de ce que je veux pour mon rituel matinal. Et puis après, la forme peut différer, ouais. Et ça peut être aussi 20 minutes comme une heure et demie. Et c'est ce que j'amène à... C'est ce que j'aime sensibiliser... J'essaie d'être française. Je sensibilise les entrepreneurs à ça. Souvent, quand on a un projet, on se dit « il va avoir telle forme ». Et quand il n'a pas telle forme, on abandonne parce que... on pense que c'est un échec, on n'y est pas arrivé. J'aime bien re-questionner sur le sens, le cœur du projet. Une de mes fiertés, c'est d'avoir accompagné Sowa, justement ma partenaire, dans la création de La Voix du Chant. Au départ, c'est un projet d'école de musique, d'école de chant même, de chant et de chamanisme. Et donc, dans l'imaginaire de Sowa, c'est une école en dur, avec des référentiels, on va dire, classiques. Et grâce aux visualisations, il y a le champ des possibles qui s'ouvre. C'est un milieu, en fait, c'est un niveau de vigilance entre la veille et le sommeil qui permet de développer ses perceptions, sa créativité et sa mémoire. Ce qui fait que dans ces espaces-là, on s'autorise, et d'ailleurs les réponses viennent toutes seules comme une évidence, à créer le projet sous une forme différente. Et donc, c'est comme ça qu'on crée la voix du chant qui, finalement, a une forme beaucoup plus alignée à qui elle est, à ses valeurs. On est dans de la convivialité. Donc là, on a terminé, donc j'ai co-animé du coup, cette formation-là parce que moi, je suis passée élève en chant à co-animatrice de cette formation et le parcours est génial. Et finalement, on n'était pas dans des locaux loués, que ce soit à la mairie ou dans des grands espaces de séminaire. Non, ça a été finalement... Alors, au départ, c'était dans un lieu dédié qui nous a pas convenu. Au final, ça a été chez les participantes qui nous ont dit « Ben ouais, moi, j'ai envie que ce soit chez moi. » Et donc, ça a créé un espace convivial. Et donc, la forme, elle se fait au fur et à mesure et elle peut se redessiner tant qu'on ne trahit pas le fond. Et donc, c'est intéressant et c'est utile d'aller vraiment creuser le fond. Et moi, c'est ce que j'adore faire, c'est vraiment aller creuser, gratter là pour percevoir c'est quoi le cœur du propos, c'est quoi le cœur de la mission.
C'est très riche tout ça. Est-ce que tu aurais un protocole pour les auditrices qui ne sont pas forcément familières avec la visualisation pour les aider à pratiquer justement la visualisation?
Pour moi, visualiser, c'est rêver, en fait. Et pour pouvoir rêver et ne pas être pollué par le mental qui revient et vient court-circuiter, même si ce n'est pas grave, en fait, hein, d'avoir le mental qui revient dans les visualisations, mais au départ, déjà, c'est de s'installer dans une posture qui est confortable. Alors, la sophrologue dirait... Vous pouvez changer de posture à n'importe quel moment de la pratique. L'idée, c'est d'être installé confortablement. On peut bouger, on peut... voilà. L'idée, c'est pas d'être immobile et figé. Et la pédagogue en expressivité sensible dirait expérimenter l'immobilité parce que dans l'immobilité, il se passe des choses. Mais l'immobilité n'est pas accessible à tous. Donc, c'est pour ça que, voilà, dans un premier temps, c'est pas mal de s'autoriser à juste s'asseoir, fermer les yeux. Donc, la fermeture des yeux, ça, c'est un protocole, ça paraît évident, hein, mais la fermeture des yeux laisse la place à d'autres sens et amène un regard intérieur. Et j'ai envie de dire, une fois qu'on s'est installé confortablement et qu'on a fermé les yeux, on va aller se concentrer... et avec curiosité, ressentir ce qui se passe dans notre corps. Notre corps est vivant, il y a des manifestations, ça picote, ça pétille, ça chauffe, c'est en appui avec le sol ou avec le dos, donc il y a plein de choses à l'intérieur qui se vivent. Ben, allons avec cette curiosité, regarder à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se vit. Et s'il y a des douleurs, déjà d'accueillir et se dire c'est ok, mon corps n'est pas que douleur, il y a peut-être d'autres endroits où c'est plutôt calme, donc ben, on peut aller se poser dans d'autres endroits qui sont calmes. Donc la visualisation, pour moi, elle passe par un temps de présence et de détente. Vous pouvez faire des bulles. Et puis l'idée, c'est de se donner peut-être une intention. Alors il y a différents types de visualisation, mais là pour la confiance, on peut se relier tout simplement au mot confiance. Alors, ce n'est pas un mantra qu'on va faire, mais c'est plutôt, tiens, si je me relie à la confiance, c'est comment la confiance, et peut-être qu'il y a des images en fait qui arrivent. Peut-être que je me souviens de la dernière situation que j'ai vécue où je me suis sentie très, très, très en confiance. Peut-être que la confiance est quelqu'un en fait à qui je pense et qui incarne vraiment cette confiance. Alors peut-être qu'on l'imagine depuis le regard extérieur et puis on observe, on étudie, j'ai envie de dire, comment elle fait pour avoir confiance et qu'est-ce qu'elle dégage pour avoir confiance. Et sentir en fait, et si moi-même j'avais un peu plus de confiance, et si je suis en confiance là, c'est comment ? Donc le « et si » il est assez puissant aussi dans une visualisation. C'est d'ouvrir la possibilité que ce soit possible. Déjà d'ouvrir un espace en soi et d'imaginer « ok, je suis confiante ». Donc voilà, il y a vraiment plusieurs manières de le faire. Donc on se relie au mot « confiance » et on laisse venir les images, le moment de confiance qu'on a vécu. Ça peut être de se souvenir, d'imaginer quelqu'un qui a confiance autour de nous. Et puis, le « et si ?» Et si j'avais confiance, ce serait comment ? Qu'est-ce que je ressens ? C'est beaucoup ça, hein. Je m'imagine avoir confiance, mais c'est aussi « qu'est-ce que je ressens ?» Et la notion de ressenti est très, très, très importante.
Et par exemple, si on veut le faire pour son chiffre d'affaires, ça va être se connecter aux chiffres, littéralement, de ce qu'on veut avoir à la fin du mois, par exemple.
J'essaye d'être juste dans ma réponse. Je ne suis pas pour se dire je veux, je sais pas, 6 000, 10 000 euros, 15 000 euros de chiffre d'affaires et donc comme un mantra et c'est ok, ça va venir. L'idée, c'est déjà d'avoir un objectif clair hein, de chiffre d'affaires à réaliser, par exemple. Donc, on a un objectif clair, il est posé, il est décidé avant de visualiser. Ensuite, ce qui peut se passer, c'est que pendant la visualisation, une fois qu'on est installé confortablement, qu'on a fermé les yeux, qu'on est détendu et on est présent, ce qu'on peut faire, c'est imaginer de là où je suis pour atteindre ce chiffre d'affaires, qu'est-ce que je fais ? C'est imaginer peut-être le chemin, le parcours. Je veux faire ça, mais voilà, si demain je dois vendre à deux clients mon offre, voilà, il ne me manque plus que deux clients là pour atteindre mon objectif du mois. Qu'est-ce que je peux faire, mais de manière inspirée ? Ce n'est pas volontaire. Donc, c'est vrai que ce n'est pas facile quand on est tout seul, on peut très vite aller dans du volontariat. Et de se dire, oh, je vais faire ça, je vais faire ça. Et il y a vraiment une espèce de détente. Hein. Vraiment, l'indicateur, c'est de la détente à l'intérieur pour pouvoir visualiser et me dire, ok, ben en fait, si je dois avoir deux clients supplémentaires, qu'est-ce que je fais ? Et j'imagine dans l'idéal ce que je fais. Il y a vraiment cette notion qui est importante d'idéal. Ça ne veut pas dire qu'on est dans le monde des bisounours non plus. Ça veut dire qu'on ouvre le champ des possibles pour que, dans la réalité, on puisse se dire « Ah, mais en fait, il y a ça qui est venu dans ma visualisation, mais concrètement, comment je le fais ?» Donc, la visualisation est là pour ouvrir le champ des possibles et amène d'ailleurs des réponses très concrètes. Hein. Il peut y avoir des réponses très concrètes qui peuvent venir. Et après la pratique de visualisation, l'idée, c'est d'écrire. Et là, c'est magique aussi, c'est de pouvoir écrire ce qui est apparu pendant la visualisation, d'écrire les prises de conscience, ce qu'on a vu, ce qu'on a imaginé, et aussi de continuer, de creuser les propos. Ce n'est pas juste trois mots, ce n'est pas juste une phrase. D'ailleurs, tu vois, qu'est-ce qui m'a permis de quitter mon métier d'hôtesse de l'air et de me lancer ? Je me suis posée au jardin de l'État un jour Je me suis dit, ok, je pratique. Et j'ai eu la réponse. La réponse m'est venue de manière évidente, je l'ai ressentie. Et là, je me suis dit, ok, bon, il faut que je quitte de telle manière, donc je vais me mettre en action par rapport à ce qui est apparu comme réponse. Voilà. Il a fallu que j'abandonne mon poste. Alors moi qui suis plutôt éthique, intègre, honnête, il était hors de question pour moi d'abandonner mes clients, enfin mes collègues. Et en fait, ce que venait me dire la visualisation, c'était « mais abandonne ça en fait, c'est ok de lâcher tout ça ». Et j'ai pu accueillir. Et j'ai pu me mettre en action. Et j'ai pu me débloquer et avancer.
Super. Est-ce que tu as un outil favori qui t'aide dans ton organisation au quotidien ?
Trello. Mais je passe à Notion bientôt parce que justement, je suis à un palier et je grossis. Enfin, mon activité, je veux dire. Et j'ai besoin d'outils, d'automatiser. J'ai besoin d'un truc un peu plus puissant. Mais clairement, juste avant l'interview, j'étais avec une cliente. On a parlé organisation pendant une heure et je transmettais mes outils et notamment Trello qui me sert. Si j'ai une idée de publication, je vais aller la ranger dans mon Trello, dans mon tableau de publication, où j'ai une colonne LinkedIn, une colonne Insta, une colonne Facebook. Je me dis, cette publication elle est beaucoup plus adaptée sur tel ou tel réseau. Et donc, je peux déjà mettre mes idées là. Et puis, clairement, dans mon quotidien, j'ai un tableau où je sais où sont mes urgences, où sont mes trucs à faire en cours. Qu'est-ce qui serait pas mal de développer, donc ce qui est en attente. Et je jongle avec ça et j'ai envie de dire d'avoir les outils, c'est précieux pour nous faire gagner un temps. Aujourd'hui, on a des outils extraordinaires à notre possession. Et à côté de ça, il est utile d'apprendre à prendre du recul et développer sa capacité à gérer son stress par rapport à ça. Et apprendre à lâcher prise. Parce que dans ma colonne, par exemple, les bonnes idées à développer, peut-être que ça fait 6 mois que c'est dedans. Ça me demande d'y revenir et de me dire, est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? Est-ce que c'est important ? Et en quoi, surtout, ça va contribuer au développement de mon activité en fonction des objectifs que je me suis fixés ? Et toujours en lien avec mes aspirations profondes, mes valeurs et ma personnalité.
Je passe à la question tabou. Tout à l'heure, tu nous parlais de chamanisme et je voulais savoir si tu pouvais nous en dire plus sur ta pratique du chamanisme ou de comment tu intègres le chamanisme dans ton quotidien.
Alors, merci pour cette question parce que je me suis présentée un jour lors d'un atelier en tant qu'entrepreneur, artiste et chamane. Et donc, l'entrepreneur, c'est évident. L'artiste, je commence à être sur scène, mais c'est aussi une manière de parler de mon accompagnement. Pour moi, je suis une artiste dans mon accompagnement. Et le chamanisme, je dis souvent, je ne fais pas de cérémonie d'ayahuasca ou de hutte de sudation. Même si j'ai participé à des luttes de sudation et que j'ai expérimenté des plantes justement qui ouvrent la conscience. Donc j'ai fait ces pratiques-là. Donc ce n'est pas de la drogue. Moi, ce qui me relie, ce qui m'attire dans le chamanisme, c'est... Alors la première fois que j'ai fait des expériences au tambour chamanique, des voyages au tambour chamanique, c'était avec ma partenaire Sowa justement. Et ce que ça m'a appris, c'est d'être en reliance avec la terre. C'est de respecter le vivant autant en moi qu'autour de moi. J'ai arrêté de regarder les fourmis avec mépris, j'ai envie de dire. J'ai arrêté d'avoir peur des araignées. Ça, c'est des exemples très concrets. Et c'est surtout qu'aujourd'hui, je respecte les arbres, je les honore. J'ai même envie de dire, je parle avec eux. Mais justement, parce qu'aujourd'hui, j'ai cette capacité à me relier, à avoir une certaine sensibilité, et je ressens les êtres vivants. Donc, j'ai envie de dire, arrêtons de croire qu'on est des êtres supérieurs, nous, les humains. Et autour de nous, il y a des espèces vivantes. Et pour moi, le chaman, la chamane, est un pont entre le visible et l'invisible. Alors, il y a des choses que je perçois, et je garde bien les pieds sur terre, et pour moi, c'est hyper important. Il n'y a pas de folklore, je perçois des choses. Qui sont de l'ordre ça peut être de l'intuitif comme de l'imperceptible, mais au final tout le monde y a accès quelque part. Je ne dis pas que tout le monde a accès au chamanisme, hein. Je dis que tout le monde a accès à ce côté percevoir l'imperceptible, voilà, tout simplement. Et comment le chamanisme vient rentre dans ma vie? Ben, je dirais que c'est essentiellement ça, c'est d'être en reliance, tu vois, c'est ce que je disais en début d'interview. Je vais dans la mer, je rencontre un poisson. Alors, je ne me dis pas que c'est mon grand-père, hein. Je suis émerveillée par la vie, en fait. Je suis tout simplement émerveillée par la vie. Et puis, quand je marche, je ressens la qualité de l'eau qui met une force contre mon corps. Et là, qu'est-ce que je ressens? Donc, en fait, pour moi, c'est très en lien avec la sophrologie qui m'a permis de développer cette capacité à ressentir, de me dire, ok, qu'est-ce que l'eau a à m'apprendre? Qu'est-ce que l'élément eau a à m'apprendre? Ok, ça me crée une résistance, en fait, quand je marche. Comment je me sens, moi? Je me sens performante, je me sens persévérante. Et donc, ça active ma qualité de persévérance à l'intérieur. J'ai fini de marcher dans l'eau, je vais prendre un temps debout à regarder la mer et puis à sentir le soleil sur ma peau. Ben, qu'est-ce que cet élément a à m'enseigner? En fait, il me réchauffe, il m'enveloppe et là, je me sens faire partie d'un tout. Je ne suis pas complètement coupée, ce qui veut dire que je suis beaucoup plus respectueuse, ce qui veut dire que dans ma manière de consommer aussi au quotidien, je ne peux plus... Alors, j'ai beaucoup de mal, hein, à aller dans des grandes surfaces et ressortir avec un caddie plein parce que en fait le plus gros de mes achats c'est des fruits, des légumes, du zéro déchet, parce qu'en fait pour moi aujourd'hui limite si ça me fait mal d'aller jeter un déchet parce que je sais où est-ce qu'il va atterrir. Et donc pour moi clairement de manière très concrète ça m'amène à respecter un peu plus la terre et de me guider vers mes choix de consommation aujourd'hui. Et un exemple concret, alors je vais le délivrer en public, parce que pas tout le monde le fait, mais par exemple, arrêter de tirer la chasse à chaque pipi quand on fait à la maison. Je peux comprendre que dans d'autres espaces professionnels, ce soit un peu délicat. Mais quand on est à la maison, on gaspille de l'eau potable pour évacuer nos selles et nos urines. Ou alors, si je fais un trajet, quand je vais à des événements, est-ce que je peux appeler les copains qui vont au même événement et faire du covoiturage? Ou est-ce que quand... je n'ai pas d'autre exemple là. Mais voilà, est-ce que je peux récupérer l'eau, par exemple? Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup faire. Je mets un seau dans la douche. J'ai l'eau qui coule parce qu'elle est froide au début et que je ne me douche pas à l'eau froide. D'ailleurs, je me douche à l'eau froide très souvent, parce que déjà, ça me fait du bien et ça permet aussi de réduire la consommation d'énergie. Et ben, l'eau que je fais couler, si je veux une douche chaude, je la fais couler dans un seau et je récupère cette eau-là pour aller arroser les plantes de ma maison, si je suis en appartement, par exemple. Donc, c'est des petites choses au quotidien qui font que je suis beaucoup plus engagée dans ma mission écologique.
Elle fera quoi, où et elle sera comment la Nadia de dans 5 ans?
Dans 5 ans, je serai sur scène, j'animerai des circle songs pour des centaines de personnes et je ferai des spectacles des spectacles qui amènent une certaine conscience, des spectacles qui amènent de la conscience à se questionner, qui créent de l'émotion en collectif. C'est pour ça que j'aime beaucoup le Circle Song, c'est vraiment, on chante ensemble. Moi, monter sur scène pour juste refaire des reprises ou chanter en solo, c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Bien que j'adore voir d'autres personnes monter sur scène en solo, tu vois. Mais mon truc, c'est vraiment de chanter et faire chanter. Et d'être ensemble dans des instants de simplicité, d'authenticité. Hein, ça rejoint la mission que je disais plus tôt, c'est la paix dans le monde. C'est vraiment un des outils en Circle Song qui favorise la paix dans le monde. J'ai envie de dire. Parce qu'il n'y a plus de notion de hiérarchie, il n'y a plus de notion de qui je suis, de rôle. Non, on est tous à la même enseigne, on improvise, on chante, on est tous humains, on est dans la joie et on s'éclate.
Je passe à la dernière question qui est ce que j'ai appelé la question girly et qui est tout simplement, as-tu un mantra ou une incantation que tu te répètes tous les jours et qui t'inspire ?
Alors, je ne suis pas très très régulière, j'aime beaucoup la spontanéité et l'improvisation. Mais l'année dernière, j'ai un mantra qui m'a été transmis, que j'ai répété pendant des mois, grâce à Marjorie Lombard, une de mes mentors. Je me développe dans le succès, l'abondance et l'amour chaque jour, et j'inspire toutes les personnes autour de moi à faire de même.
Super. Eh bien, merci beaucoup. Je sonne le clap de fin de cette interview avec ce que j'appelle le portrait. C'est tout simplement une description intuitive et bienveillante de mon invité du jour. Parce que de se connecter et de se reconnecter les unes aux autres, c'est essentiel à mon sens. Et parce qu'apprendre à donner et recevoir, c'est la base de la réussite. Alors, c'est parti. Nadia, reçois ma perception de toi.
Oh, j'adore. En général, c'est moi qui le fais faire.
Alors, Nadia, je perçois de toi une âme curieuse et bienveillante, une oreille attentive et un esprit malicieux. Un petit lutin des prés profitant de l'air frais, de la rosée qui perle sur les feuilles vertes des fleurs endémiques. Un sourire qui aujourd'hui prend le dessus sur les peurs et les troubles du mental. Une expérience de vie à partager pour vivre libre et sereine. Une bâtisseuse d'espoir et de clarté. Nadia, c'est ce colibri qui œuvre pour modeler, comme elle le dit, des humains entrepreneurs, artistes sensibles et épanouis. Merci Nadia d'avoir participé à ce podcast. Est-ce que tu as des points que tu n'as pas abordés et que tu souhaiterais rajouter ?
Ah ben moi, j'ai juste envie de te dire merci. Merci pour ce retour. C'est très touchant. Et je me suis sentie vraiment écoutée. Merci pour ta bonne humeur, ta pétillance. Bon, tiens, moi aussi, je le fais. ouais, j'aime beaucoup ce mix de structures, cette organisation qui permet de dérouler le fil. Et ce moment tout doux là que tu nous as offert, merci beaucoup. Et j'espère que les auditrices, les auditeurs vont pouvoir goûter à ça également.
Où est-ce qu'on peut te retrouver ?
Sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook, sur nadialacaille.com.
Merci beaucoup, Nadia.
Merci à toi, Christelle, et à bientôt.
À bientôt.
Merci Nadia et Christelle pour cet échange très riche et très très dense. Et ce qui m'a marqué, il y a beaucoup de choses, notamment Nadia, qui est vraiment l'incarnation, presque, j'ai l'impression, du changement qu'on doit tous faire à cette époque de crise écologique, où au lieu de voyager en surface avec l'avion, maintenant, de plutôt préférer le voyage en soi-même pour trouver tout autant de sources de découvertes, d'exploration et vraiment de fascination. Juste en restant chez soi ou à côté de chez soi. Et pour ça, j'ai l'impression que le fait de méditer, d'être vraiment plus dans la présence et de trouver des gens aussi à côté de nous qui sont dans cette ouverture d'esprit, de cœur, et ben c'est vraiment super parce que comme ça, on bouge beaucoup moins loin de chez soi et pourtant on trouve des moments fascinants de découverte de soi et de l'autre. Ou même de la nature, hein, comme le disait Nadia avec quand elle allait dans les lagons avec les poissons et juste en affinant sa qualité de présence, et ben c'est fou le bien-être qu'on peut, la joie qu'on peut ressentir d'un coup. C'est ce que j'avais lu notamment dans le livre Le bug humain de Sébastien Boller qui disait que face à la quête du cerveau humain qui veut toujours plus pour essayer de ressentir des sensations vraiment qui le comble, et ben une des solutions était justement, il parlait de la méditation pour avec moins de stimuli ressentir des choses vraiment captivantes parce que c'est comme si on avait nettoyé son filtre de perception et que du coup on pouvait apprécier ce voyage immobile beaucoup plus que ce voyage en surface de milliers de kilomètres qui malheureusement comme le partagent beaucoup de spécialistes, pollue avec des bilans carbone. Donc, merci beaucoup Nadia pour cette invitation à voyager surtout à l'intérieur, à être des cosmonautes de l'intérieur, comme disent les bouddhistes. Et aussi, ce qui m'a marqué, c'est le côté quand Nadia parle du fait de trouver sa façon authentique de prospecter et de communiquer. Et ça m'a touché parce que c'est aussi des choses que j'ai pu rencontrer au quotidien avec des personnes que j'ai accompagnées et qui des fois ils veulent aussi partager sur les réseaux sociaux mais ils ont pas trouvé de moyens spontanément les moyens classiques ne leur parlent pas parce que les différents guides généralement qu'ils avaient lus pour communiquer sur LinkedIn, Facebook ou Instagram, ça leur parlait pas. Et tout d'un coup je tombe sur une passionnée de dessin et je lui dis mais finalement si tu partageais sur la base de dessin, toi qui aimes dessiner, pour partager avec la communauté qui est proche de toi, elle me fait j'y avais pas pensé mais c'est vrai que au moins moi j'y trouverais de la passion à faire ces dessins, ça sera facile et j'aurai beaucoup de joie à le faire. Et du coup je trouve ça super vraiment quand Nadia elle avait insisté sur cette dimension de trouver sa voix. De savoir vraiment de suivre ses valeurs pour trouver un business model écologique et je trouve ça vraiment top. Donc à la fois ce voyage en soi pour nettoyer son filtre de présence pour pouvoir savourer les choses simples de la vie et aussi se connaître pour partager avec ses médiums ses moyens qui nous plaisent de plus pour partager avec les autres. Donc voilà. Merci beaucoup Christelle, Nadia, merci beaucoup aux Farpettes et exposez le cadre.
Pour celles qui seraient pressées de commencer, je vous ai préparé une synthèse, un plan d'action en 3 étapes de cet épisode. On en revient encore et toujours au même premier point qui est apprendre à se connaître, aller à la recherche de ses motivations profondes, son pourquoi on fait les choses. Et pour chaque nouvelle activité entreprise au cours d'une journée, se poser la question de qu'est-ce que j'attends de cette activité. Un exemple tout simple, je me brosse les dents. Qu'est-ce que j'attends de cette activité ? J'attends d'avoir des dents fortes, des dents propres, des dents en pleine santé et un sourire radieux qui facilite les relations et les échanges. Voici pour un exemple tout simple du quotidien et à appliquer pour chaque nouvelle activité que l'on entreprend au cours d'une journée. Vous déterminerez ainsi ce que vous voulez vraiment tout au long de la journée dans chaque chose qui se présente. En deux, faites de même en partant à la conquête de vos valeurs. Prenez une liste de valeurs et sélectionnez-en 3 à 5. Elles vous guideront au quotidien dans vos décisions et vous pourrez prendre justement vos décisions en fonction de ces valeurs pour être toujours en accord avec vos convictions. En 3, soyez à l'écoute de votre ressenti. La lourdeur, la légèreté, la joie, la colère ou encore l'oppression. Quelles sont les émotions qui me guident là à chaque instant de mon quotidien? Ces émotions sont vraiment là pour vous guider vers ce qui vous correspond. Elle va vous guider au quotidien. Par exemple, si vous ressentez de la joie dans une activité ou une relation, c'est que vous êtes au bon endroit. Si par contre, vous ressentez de la colère ou une sorte de frustration ou encore une émotion dite entre guillemets négative, vous avez sûrement quelque chose à modifier. Vous avez peut-être à bouger de la situation dans laquelle vous êtes pour vous retrouver à nouveau dans un état d'esprit positif, dans une émotion positive de joie ou d'enthousiasme pour être aligné vers vos désirs profonds. Voilà pour ce plan d'action qui paraît simple mais pas facile à mettre en application. Alors je vous laisse là-dessus. Comme toujours, si vous avez aimé cet épisode, partagez, likez, notez l'épisode sur 5 étoiles avec iTunes ou encore Spotify. Et vous pouvez nous laisser un commentaire directement sur le site internet christelleattic.fr/podcast ou dans la page dédiée à cet épisode dans le blog. Je vous remercie pour votre présence, pour votre écoute active et je vous souhaite une bonne continuation en attendant l'épisode prochain. Et comme toujours, keep cool!